êtes à l'écoute d'une émission chrétienne intitulée Chemin de vérité. Vous êtes invité à suivre chaque semaine avec nous des études bibliques de divers sujets d'importance spirituelle. L'étude de ce jour est la sixième dans une série sur la délivrance. Comment s'approprier la délivrance ? Il est évident qu'il y a un marché en Afrique pour la délivrance. Je ne veux pas dire qu'on en fait un commerce. Je veux dire simplement que beaucoup de gens sentent le besoin d'être délivrés de quelque chose. C'est pour cela qu'on voit des centres de délivrance et des séances de délivrance. C'est pour cela que beaucoup assistent aux campagnes de délivrance ou parlent de ministères de délivrance. Nous avons vu que dans bon nombre de cas, les gens ont une fausse conception de la délivrance que Jésus apporte. Ils pensent que la plupart des hommes sont possédés de mauvais esprits ou liés par des pactes que leurs ancêtres auraient faits avec les démons. Or, même si la possession existe, elle n'est pas généralisée. Les gens pensent que s'ils sont pauvres ou stériles ou empêchés de réaliser leurs ambitions, c'est à cause de liens démoniaques dont ils ont besoin d'être libérés. Ils ne se rendent pas compte que l'esclavage dont Jésus et ses apôtres parlaient le plus, c'est l'esclavage au péché. Il est vrai que Jésus est plus fort que Satan et tous ses démons, et que celui qui est en Jésus a trouvé un abri contre les attaques mystiques. Mais nous aurions tort de ne pas insister sur le salut du péché comme la sorte de délivrance qui concerne tout être humain et qui est en considération quand la Bible parle de la délivrance. Jésus nous délivre de la condamnation de nos péchés. Il nous délivre de la crainte de la mort. Et il nous délivre d'un style de vie qui est inutile et vain, qui ne rapporte rien. À la place de la culpabilité, de la crainte et de la vanité, Jésus nous donne le pardon, l'assurance, la force nécessaire pour tout ce à quoi nous devons faire face dans la vie et l'espérance du bonheur éternel. Mais comment s'approprier cette délivrance? Par quels moyens pouvons-nous être affranchis du péché, libérés de sa prise sur nous, dégagés des liens qui nous attachent? Comment pouvons-nous avoir la liberté que Jésus est venu nous donner? On nous rapporte que le jésuite Rodvik, pour accomplir son ministère de délivrance, se sert d'eau bénite, d'un chapelet, d'une représentation de l'archange Michel, des sacrements et des reliques. D'autres personnes récitent des versets bibliques comme une sorte d'incantation magique. Pour d'autres encore, il s'agit de crier et prier pendant des heures. L'imposition des mains, les jeûnes, les veillées, tous ces moyens sont recommandés par les prophètes de nos jours. Mais que dit la Bible? Selon les apôtres, à quelles conditions Jésus délivre-t-il les hommes? Éphésiens 1, verset 3 nous enseigne qu'il faut être en Jésus-Christ pour recevoir toutes les bonnes choses que Dieu nous a préparées. Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, nous, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité de l'Évangile, de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Un peu plus loin, Paul écrit ceci. « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main d'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Éphésiens 2, 11 à 13. Comment puis-je donc me trouver en Christ? C'est très simple. Il y a cinq choses que je dois faire. Premièrement, je dois écouter l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Car selon Romains 1, verset 16, ce message est la puissance de Dieu pour le salut. Paul dit aux Corinthiens qu'il les avait engendrés par l'Évangile, 1 Corinthiens 4, verset 15, et aux Thessaloniciens que c'est par l'Évangile que Dieu les avait appelés, 2 Thessaloniciens 2, 14. Sans avoir entendu l'Évangile, on ne peut pas vraiment remplir la deuxième condition de salut, qui est la foi en Jésus. Nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu et mettre notre confiance en lui. Éphésiens 2, verset 8 dit: C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Selon Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Encore, Galates 2, verset 16 nous dit la même chose. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Mais la foi qui ne produit pas un changement de comportement est une foi morte qui ne peut pas sauver. Celui qui veut être délivré par Jésus doit se repentir de ses péchés. Jésus lui-même a dit, en Luc 13, verset 3, Si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Paul dit en Actes 17, verset 30, que Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Se repentir signifie très simplement prendre une décision sincère de se détourner des péchés. On fait demi-tour et on cherche désormais à faire la volonté de Dieu. On ne peut pas demander à Dieu de nous libérer du péché si nous avons l'intention de demeurer dedans. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu nous pardonne si nous comptons continuer dans les mauvaises choses qui l'offensent. Quatrièmement, nous devons confesser notre foi. Une foi qui reste cachée dans le cœur n'est pas ce que le Seigneur demande. Il veut que cette conviction soit annoncée aux autres. Romains 10, versets 10, 9 et 10 dit: Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais ayant fait toutes ces choses, c'est lorsque nous recevons le baptême que nous sommes unis à Christ et que nous commençons à bénéficier de toutes les bénédictions spirituelles dont nous avons parlé. Selon Colossiens 3, verset 27, Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Remarquez bien les mots baptisés en Christ. C'est par le baptême que l'on entre en Christ. Romains 6, versets 3 et 4 montrent que le baptême nous unit à la mort de Christ, là où son sang a été versé. Pour être en contact avec ce sang qui purifie, nous sommes baptisés en sa mort. Paul dit aux Romains, Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Si nous considérons la chose d'un autre point de vue, être en Christ, c'est être dans son corps. Mais une fois de plus, on ne peut intégrer le corps sans le baptême. 1 Corinthiens 12, verset 13 dit, Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Beaucoup de croyants aujourd'hui ne reconnaissent pas la nécessité du baptême pour le salut. Oh, ils disent que le baptême est important parce que Jésus l'a ordonné, mais que le baptême n'a rien à voir avec le salut. Ils disent qu'un chrétien devrait se faire baptiser. Mais en fait, on n'est pas encore chrétien avant d'être baptisé. Un chrétien ne peut pas se faire baptiser. C'est le pécheur qui veut être chrétien qui reçoit le baptême. Jésus dit aux apôtres, en Marc 16, versets 15 et 16, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » Ne pas croire suffit pour demeurer dans un état de condamnation, mais croire ne suffit pas pour être sauvé. Il faut croire et être baptisé. Voilà pourquoi les apôtres n'ont pas manqué de parler du baptême. En Acte 2, verset 37, la multitude qui avait écouté l'Évangile le jour de la Pentecôte avait le cœur vivement touché et a demandé « Hommes, frères, que ferons-nous ?» Le verset suivant nous relate la réponse de l'apôtre Pierre. « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Notez que le baptême est non seulement le point où nous recevons le pardon de nos péchés, c'est aussi le moment où le Saint-Esprit vient demeurer en nous. C'est là que notre délivrance devient effective. De nos jours, certains affirment qu'en Afrique, compte tenu des pratiques et croyances païennes qui sont si répandues, compte tenu des rapports que tant de personnes ont eus avec les mauvais esprits, une autre étape doit précéder la prédication de l'Évangile. Ces personnes nous disent qu'il faut d'abord briser les liens démoniaques. Il faut chasser ou lier les esprits qui ne glorifient pas Jésus. Il faut délivrer les gens de Satan avant de pouvoir les délivrer du péché par la prédication de l'Évangile. Mais cette approche n'a aucun soutien dans la Bible. Les apôtres, surtout Paul et ses compagnons, prêchaient à des auditeurs païens qui ressemblaient tout à fait aux païens de l'Afrique. Eux aussi avaient été, depuis leur jeunesse et depuis des générations, en relation avec les démons. En effet, selon 1 Corinthiens 10, verset 19, derrière les idoles des païens se tenaient les démons. Mais aucun exemple du Nouveau Testament n'indique qu'avant de prêcher la bonne nouvelle aux païens, il faut que chacun passe sa délivrance, comme on le dit aujourd'hui. On chassait des démons, oui, mais seulement des gens véritablement possédés, et non pas de manière générale de tous ceux qui avaient servi les faux dieux. Celui qui écoute et qui obéit à l'Évangile par la foi, la repentance, la confession de foi et le baptême est délivré ou sauvé. C'est très simple et c'est merveilleux. Êtes-vous sauvé? Sinon, n'attendez plus.